D'abord, il faut se dire une chose. J'étais pas fait pour réussir, ni physiquement, ni vocalement, ni quoi que ce soit. Bon. Alors, j'ai réussi. Je crois que c'est une leçon d'optimisme pour les gens qui ont du désespoir et qui ont peur que rien ne leur réussisse dans la vie. On peut toujours dire, mais regardez Aznavour, avec le physique qu'il a, avec la voix qu'il avait, avec les trucs qu'il écrivait, il a réussi quand même. Je trouve que c'est une belle leçon d'espoir, non ?
Je savais que ça marcherait. J'en étais sûr et certain. J'ai eu des moments de découragement, j'ai eu des moments où je voulais abandonner, le soir, mais le matin, je savais que ça marcherait. Je ne suis ni pratiquant, ni vraiment croyant. Je ne crois que quand ça m'arrange vraiment, comme beaucoup de gens. Mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est comme ça, que tout est dicté à l'avance, que mon chemin est tracé, dur ou pas dur. Enfin, pour moi, il a été difficile.
Le grand atelier.
Mais je m'en suis pas rendu compte parce que j'ai fait une chose que j'aimais et je savais que ça irait. Je savais que ça marcherait.
Sur France Inter.
Le lendemain de la mort d'Aznavour, je sors de chez moi pour venir à la radio et sur le palier du cinquième étage, j'entends mon voisin hurler à tue-tête.
Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil.
Je descends l'escalier, arrive au rez-de-chaussée où les ouvriers qui installent un ascenseur ne disent pas un mot, non, ils sifflent. En chœur.
La bohème, la bohème, et nous avions tous du génie.
Au pied du métro, le marchand de journaux a étalé sur une table des quotidiens aux unes similaires. Hier encore, titre Libé, une vie formidable, le Parisien, un siècle, un destin, la Croix, formi, formidable, le Figaro. Incroyable sensation de sentir toute la rue chanter un disparu, prendre le pouls à travers ces manifestations physiques du deuil de ce qu'est un chanteur populaire. Aznavour à peine mort, sa chanson se promène d'une voix à une autre, de cœur en cœur. Elle est à tout le monde, elle est là pour toujours, c'est une vibration commune. Nous sommes heureux de passer 2 heures avec lui, nous allons écouter sa voix, ses témoignages et ses chansons avec son biographe pour Fil Rouge. Bonjour Bertrand Dical.
Bonjour.
Merci d'être notre guide dans ce long parcours, près d'un siècle. Votre livre s'intitule « Tout Aznavour ». Permettez-moi une dernière anecdote. J'achète mon premier disque d'Aznavour en arrivant à Paris à 23 ans. Disque choisi au hasard. Et le hasard ne me déçoit pas. On trouve notamment cette version de sa jeunesse. Juste la voix d'Aznavour qui dialogue avec un piano et confie sa nostalgie.
Lorsque l'on tient entre ses mains cette richesse, avoir 20 ans des lendemains pleins de promesses, quand l'amour sur nous se penche pour nous offrir ces nuits blanches, lorsque l'on voit loin devant soi rire la vie, brodé d'espoir, riche de joie et de folie. Il faut boire jusqu'à l'ivresse sa jeunesse. Car tous les instants de nos 20 ans nous sont comptés, et jamais plus le temps perdu ne nous fait face. Il passe souvent en vain, on tend les mains et l'on regrette. Il est trop tard, sur son chemin rien ne l'arrête. On ne peut garder sans cesse sa jeunesse. Avant que le sourire et nous quittons l'enfance, avant que le savoir la jeunesse s'enfuit, cela semble si court que l'on est tout surpris, qu'avant que le comprendre on quitte l'existence.
lorsque l'on tient entre ses mains cette richesse. Avoir 20 ans des lendemains pleins de promesses, quand l'amour sur nous se penche pour nous offrir ces nuits blanches. Lorsque l'on voit loin devant soi rire la vie, brodée d'espoir, riche de joie et de folie, il faut boire jusqu'à l'ivresse sa jeunesse. Car tous les instants de nos 20 ans nous sont comptés, et jamais plus le temps perdu ne nous fait face. Il passe souvent en vain, on tend les mains et l'on regrette. Il est trop tard, sur son chemin rien ne l'arrête. On ne peut garder sans cesse sa jeunesse.
Charles Aznavour. Charles Aznavour, c'est l'intensité. Une intensité d'autant plus vibrante qu'elle est souvent freinée, contenue. C'est l'intensité de l'auteur aux paroles de choc, aux mots qui atteignent leur but, et c'est celle du compositeur qui sait communiquer à une mélodie toute sa force et la conduire à son paroxysme. Charles Aznavour, c'est encore l'intensité du chanteur, tendu et sensibilisé à fleur de peau, brûlé par son rythme, marquant le tempo d'un coup de talon rageur, le chanteur qui s'exprime avec cette voix étrange, que l'émotion semble parfois briser davantage encore, avec ses gestes étonnants qui s'envolent, tracent des arabesques, pour retomber ensuite avec la précision et la sécheresse d'un coup de fouet.
Jeanne Moreau, qui sur un disque intitulé « Au bon vieux temps de la TSF » présentait ainsi Charles Aznavour. On ignore d'ailleurs l'année et l'auteur de ce beau texte. Moi, je trouve que c'est beau comme du Cocteau, Bertrand Dical.
C'est beau comme du Cocteau et puis ça nous rappelle quelque chose, c'est-à-dire que Charles Aznavour nous est tellement familier. On a à peu près tous grandi, même quand on a 70 ans aujourd'hui, on a grandi en écoutant du Charles Aznavour. Ça nous rappelle que Charles Aznavour a été étonnant, que Charles Aznavour a ébahi ses contemporains.
Elle parle d'intensité à plusieurs reprises.
Oui, parce que Charles Aznavour, c'est une espèce de feu, de rage, de vérité, de sincérité, d'instinct qu'on n'a jamais vu sur une scène jusque-là. On est dans un monde dans lequel la chanson est extraordinairement plate, il n'y a pas d'autre mot, elle est raisonnable. Quand elle parle d'amour, c'est certainement pas le vrai amour des gens, c'est l'amour idéal, avec des personnages idéaux qui ne font jamais l'amour, qui ne se disputent pas. Le cas échéant, il verse des pleurs, mais il ne souffre pas. Et soudain, Aznavour efface tout ça. Et réentendre Jeanne Moreau qui dit ce texte qui est effectivement très beau, ça nous rappelle l'ébahissement des Français devant Aznavour.
Je vous présente Catherine Rétoré, Bertrand Dical. Catherine Rétoré, vous êtes comédienne et vous êtes professeure de respiration. Alors, vous écoutiez avec beaucoup d'attention peut-être la manière de chanter d'Aznavour et de respirer sa chanson.
Oui, respirer, c'est surtout l'expiration. Et Aznavour est sur l'expiration. Quand on le regarde en gros plan, quand il chante, on s'aperçoit à peine quand l'air rentre. C'est-à-dire qu'il se déploie sur ce vidage, et à partir du moment où ce vidage est profond, il y a tout qui passe. Comme c'est libre, eh bien, c'est ça qui déploie. Et même si il a une certaine fragilité au niveau de l'appareil vocal, on va dire, étant donné qu'il travaille sur l'expiration, il travaille sur ce vidage, sur ce souffle, il n'est absolument pas empêtré par cette fragilité, puisqu'il travaille ailleurs, il travaille sur l'essentiel. Et c'est cet essentiel qui nous touche au plus profond de nous. C'est une expiration intense, et c'est une expiration sur un fil, comme une lame de rasoir. Et c'est pour ça qu'il arrive à avoir le même timbre sur toute sa tessiture, ce qui est de plus en plus rare. Enfin, ceux qui y arrivent, on les remarque, parce que c'est exceptionnel. Et sur des notes qu'il définit très difficiles comme son fa aigu, son fameux fa aigu, eh bien, même pour ces notes-là, il arrive à être sur cette précision du souffle qui ne bouge pas.
Moi, les notes, je les pense. Alors, je n'ai pas de problème de notes. Si je pense haut, je chante haut. Si je pense bas, je chante bas. Je pense que tout peut être pensé.
On était très attentifs quand nous écoutions Sa Jeunesse, cette chanson qu'il écrit dans les années 40, mais qu'il enregistre en 56, hein, Bertrand Dical.
Oui, il l'enregistre en 56, il a 32 ans, c'est quand même un peu jeune pour chanter.
Pour pleurer ses 20
le
ans.
Le temps lointain de la jeunesse. Et effectivement, lui, il dit qu'il l'a écrite à 26 ans.
Il a toujours chanté les 20 ans. C'était presque une obsession. 20 ans revient dans plusieurs chansons, Bertrand Dical.
Alors, évidemment, dans La Bohème, même si c'est pas lui qui l'écrit, hein,
je vous parle d'un temps
que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. C'est Jacques Plante qui écrit cette chanson.
Il y a aussi Hier encore.
Hier encore. J'avais 20 ans. Moi, j'avais compté une dizaine de chansons d'Aznavour dans lesquelles il dit 20 ans. Mais là où c'est intéressant, c'est que les 20 ans d'Aznavour, on n'a pas du tout envie de les vivre. C'est en 44. C'est dans Paris occupé. Les parents d'Aznavour sont des apatrides, ils n'ont pas la nationalité française, donc c'est pas tout à fait simple dans Paris occupé. C'est l'année 44 qui est une vraie année de disette à Paris. Et comme chanteur, avec Pierre Roche, ils n'ont que des petits engagements. De temps en temps, ils vont jusqu'au Havre, mais à deux sur une bicyclette. Il leur arrive de faire des galas en lointaine banlieue et de faire 30 km à pied pour revenir parce qu'il n'y a pas de train, parce que... voilà. Donc c'est vraiment 20 ans très douloureux, très difficile, et il va toute sa vie chanter l'insouciance des 20 ans, qui est une espèce d'idéal rétrospectif, parce que ses 20 ans à lui ont franchement pas été amusants.
D'ailleurs, quand il rencontre Oula, sa dernière épouse, il a 43 ans et il dit j'ai 20 ans.
J'ai enfin 20 ans.
C'est bon. On va écouter Le Feutre Topé, hein, le fameux duo avec Pierre Roche, a été un de leurs succès. Voici la version de 48.
Il buvait des cafés français avec des pages. Il était très dégingandé. Il fumait des camels parfumés. Il marchait à pas condamné. Boulevard Raspail. Il suivait des inconnus chaque soir le long des rues pour leur dire l'air ingénu. Petit papin, il portait un peu trop tombé. Il parlait par un homme à tomber, il buvait des cafés frappés avec des pas. Il était très imprudent car il risquait de se faire écraser tout le temps. Il fuyait en s'excusant tandis que les gens disaient en s'éloignant. Il portait un peu trop tombé, il parlait par un homme à tomber, il buvait des cafés frappés avec des pailles. Il était très dégingandé, il fumait des camels parfumés, il marchait à pas combiner. Boulevard Raspail, il suivait une inconnue, lui parlait d'un air ému. En voici ce qu'on a retenu. Petit babin, elle était très intéressée, se laissa très très vite inviter à prendre un bon café frappé avec des bras. Elle lui plaisait fortement quand elle parlait, il n'osait plus faire un mouvement. Elle riait de son étonnement, mais se laissa courtiser car justement elle aimait son feutre topé, son parler par un homme à topé. Aussi les cafés frappés avec des pailles. Elle était blonde platinée, elle était fortement parfumée, prenait un air détaché, un air canaille. Quand il lui disait chérie, vous êtes la femme de ma vie, même il ajoutait ces mots gentils. Babin, pouti 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 pouti. Plus tard ils se sont mariés, se la fit un ménage cinglé qui se balade à pas combiner. Boulevard Raspail,
il faut les voir
dans un café,
sur le comptoir,
buvant frappé, des cafés frappés avec des pailles.
Vous êtes né dans le Sérail, vos parents étaient...
Ma mère était actrice et mon père était chanteur. On allait au théâtre avec mes parents, quand on les voyait jouer, on en voyait d'autres jouer, on allait beaucoup au cinéma. Mon père achetait beaucoup de disques. À l'époque, ça se faisait pas beaucoup.
Oui.
Et puis à 9 ans, j'ai débuté au studio des Champs-Élysées dans une pièce qui s'appelait Émile et les détectives. Et je jouais déjà un rôle à accent.
Oui.
J'avais 9 ans.
Voilà, Charles Aznavour en 96 dans le fameux pop club de José Arthur, Bertrand Dical. C'est vrai que c'est un enfant qui côtoie très tôt le milieu du spectacle. Son père n'est pas chanteur en soi, il chante le soir, j'allais dire comme tout Arménien aime chanter. Sa mère est actrice, le père est d'ailleurs restaurateur, il est très mauvais gestionnaire.
C'est un restaurateur en fait.
Il préfère chanter que de gérer ses restaurants.
Et puis dès que quelqu'un chante dans le restaurant, il se met à chanter, tout le monde chante, on pousse les tables et on oublie de passer l'addition. Donc il y a un certain nombre des fidèles de son restaurant qui savent très bien ce qu'il faut faire pour ne pas payer l'addition.
Heureusement que Charles et sa sœur font des petits boulots et sont sur scène.
Ce qui est totalement incroyable, c'est que, mais on s'en rend pas forcément compte aujourd'hui, il commence à gagner sa vie à 9 ans.
Oui. Il a fait ce qu'on appelle l'école du spectacle.
Il fait l'école du spectacle, pas tellement par vocation, mais aussi par opportunité, puisque son père a repris un bistrot qui va faire faillite, mais juste à côté de l'école du spectacle, c'est sur la montagne Sainte-Geneviève, dans le 5e arrondissement, elle existe toujours, hein, cette école. Et c'est un vrai enfant de la balle. Comme Charlie Chaplin, comme d'autres, il sait effectivement tout faire. Il sait jongler avec 4 balles. Il sait faire le poirier, il sait marcher sur les mains, il sait faire un salto arrière sans élan, il sait faire tout ça.
Imiter Maurice Chevalier.
Imiter Maurice Chevalier, parce que de toute façon, il le dit, le premier souvenir de son existence, il est avec sa grande sœur, ils sont dans un coin, contre un meuble, et ils sont en train de regarder, dans une chambre meublée de la rue Monsieur le Prince, ils sont en train de regarder leurs parents en train de répéter avec d'autres comédiens amateurs dans une petite chambre. Et ça détermine toute sa vie.
Le Grand Atelier. Vincent Josse sur France Inter.
On a au téléphone un de nos monsieur cinéma en France, c'est Thierry Frémaux. Bonjour. Vous officiez au Festival de Cannes et à Lyon, bien sûr, à l'Institut Lumière. Quand vous avez appris, Thierry Frémaux, la mort d'Aznavour, est-ce qu'il y a une chanson qui vous est venue à l'esprit?
J'ai pensé à la chanson que Claude Lelouch lui avait demandé de composer pour Edith et Marcel, qui est une chanson assez rare, assez méconnue. Moi, je suis plutôt à aimer les chansons rares et débusquer les chansons rares. Et chez Aznavour, il y en a un sacré paquet.
Il est venu l'an dernier à votre festival Lumière. C'était le 22 octobre 2017. Donc, vous avez reçu le comédien et le chanteur. Vous avez reçu Aznavour tout court.
Oui, on a reçu Aznavour tout court, mais on voulait pas le mettre dans une salle de spectacle, parce qu'il les a toutes faites partout, à Lyon ici, mais un peu partout dans le monde. On voulait le mettre dans une salle de cinéma, et il était d'accord. Il était même assez honoré d'être dans la salle de cinéma de la rue du premier film, c'est-à-dire celle de l'Institut Lumière, là où a été inventé le cinéma, parce que c'était un fou de cinéma, et nous, on voulait rendre hommage à l'acteur Aznavour, d'abord parce que il y a une belle filmographie, ensuite parce que c'était un excellent acteur, et enfin parce que c'était sa passion, le cinéma, depuis toujours. D'ailleurs, avant et après la masterclass, il est allé dans le village du festival et il a acheté des dizaines et des dizaines de DVD.
Il paraît que chez lui, Bertrand Dical, il avait une DVD-tech impressionnante et qu'il était ouvert à tous les genres.
Oui, et il n'était pas nostalgique. C'est-à-dire qu'il connaissait par cœur le cinéma qu'il avait vécu en direct, le cinéma, l'apparition du parlant en France et tout ce cinéma enchanté des années 30-40, des années où il crevait de faim et où il allait se réchauffer dans les cinémas, comme beaucoup de Parisiens. Mais il a continué tout du long à aimer le cinéma, et à la fois un cinéma d'auteur, il a tourné dans Le Tambour de Volker Schlöndorff, mais aussi un cinéma populaire.
Thierry Frémaux, de quel cinéma au pluriel vous a parlé Aznavour lors de ce rendez-vous à Lyon?
Il nous a révélé des trucs pas mal, par exemple qu'il a écrit « Tu te laisses aller » après avoir vu « La Poison » de Guitry. Et ses chansons sont très souvent cinématographiques. La Mama est une scène de film. Et parmi les trucs aussi très bien qui n'ont rien à voir avec le cinéma, mais juste parce que j'y pense, qu'il nous a dit lors de cette masterclass, il a dit « Je m'en fous d'être vieux, je veux pas être con ». Et c'était beau parce qu'il était en train de le démontrer. Avec une générosité, une grande ouverture d'esprit, en effet, sur beaucoup de choses. Et après, nous avions montré un taxi pour Tobruk que Gaumont venait de restaurer. Et lui, il a pris un plaisir fou à être accueilli en acteur et en cinéphile, et pas en chanteur.
J'ai souvent pensé à la mort. La mienne, bien sûr. Je voyais ça vers les 70 piges, avec un encadré dans la rue médicale. Le professeur Samuel Goldman est mort d'un arrêt du cœur. Je vais mourir ici, de soif, comme un géranium.
T'as fini? Bon, alors debout, si t'as oublié quelque chose, tu nous le diras en marchant. Allez, route!
Nous étions très très liés avec Ventura, avec Hardy Kruger et avec Biro. On était tout le temps ensemble. Alors c'était les plaisanteries. On arrivait même à faire la cuisine parce qu'on n'aimait pas tellement la cuisine espagnole, il faut bien le dire, là où on était. Lino a fait la cuisine et moi j'ai fait la cuisine. Et puis, vous dire à quel point c'était devenu une complicité. Patelier nous avait demandé de garder nos uniformes sans jamais les laver. C'est-à-dire que pendant près de 3 mois, nous n'avons pas lavé les uniformes qui tenaient debout. Pourquoi ? Parce qu'il voulait qu'il y ait une certaine vérité. Mais on riait comme des dingues.
Le cinéma lui faisait plaisir, lui faisait du bien. Est-ce que c'était une récréation ? Je crois que c'est un mot qu'il a employé par rapport à ses tours de chant, Bertrand Décale.
D'abord, c'est sa vocation. C'est sa vocation de départ. Il veut être comédien, il veut monter sur scène. C'est la première génération de Français émerveillés par des acteurs sur grand écran. Faut pas oublier ça. Mais il y a aussi le fait que c'est pas tellement chanter qui va le détourner du cinéma, c'est écrire. C'est-à-dire que il le dit, il le dira plus tard. Moi, je l'ai connu. Il avait plus de 70 ans. Il préfère écrire une histoire et monter sur scène pour raconter cette histoire de 3 minutes plutôt que passer 2 mois sur un plateau à raconter une histoire écrite par quelqu'un d'autre.
D'ailleurs, Thierry Frémaux, je crois que Aznavour, l'an dernier à Lyon, vous confiait qu'il écrivait des scénarii.
Oui, il aimait écrire des, pas toujours des scènes complètement dialoguées, etc., mais des histoires de cinéma, ouais. Parce que c'était aussi un auteur total. C'est aussi un poète. Les textes, il les a chantés, mais il aurait pu les publier. Et ce qu'il y a de très beau chez Charles, c'était que il était très cultivé, il apprenait tout le temps, et il est aussi le produit de plusieurs croisements de types d'artistes. Et c'est pour ça que, bizarrement, cette addition, cette culture, ça l'a rendu unique.
Merci Thierry Frémaux de nous avoir livré ce témoignage, cette mémoire de cet instant avec Aznavour et cet instant joyeux.
Merci à vous, au contraire.
Piaf était une comédienne de la chanson, je suis un comédien de la chanson. Liza Minnelli est une comédienne de la chanson. Il y en a qui croient jouer la comédie parce qu'ils se soulèvent le col et qui disent il fait froid, vous comprenez, ou qu'ils font des gestes qui ressemblent aux lignes qu'ils viennent d'interpréter. Et c'est pas simplement parce qu'on a de la voix, il faut faire ressentir la chanson au public.
Un comédien de la chanson, est-ce que vous le voyez comme ça, Bertrand Décale ?
Oh oui, absolument. Et il est même un des premiers. N'oublions pas, hein, encore une fois, d'où il vient. Luis Mariano sur scène, il joue une espèce d'archétype. Georges Brassens a une expression dans la chanson extrêmement retenue. Gilbert Bécaud est dans une espèce de monologue furieux, joyeux, impétueux, érotique, mais c'est toujours un peu le même personnage. Aznavour, début des années 60, fin des années 50, début des années 60, il est le premier à exploser en jouant tantôt un homme qui triomphe, tantôt un raté, tantôt un ivrogne au milieu d'une scène de ménage, tantôt quelqu'un d'extrêmement rentré, intérieur, mélancolique. Il est différent à chaque chanson. Et c'est ça qui est aussi révolutionnaire.
Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert. Et derrière eux, comme un cortège en folie, ils drainent tout le pays, les comédiens. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Si vous voulez voir confondu les coquins dans une histoire un peu triste où tout s'arrange à la fin. Si vous aimez voir trembler les amoureux, vous lamentez sur Baptiste pour rire avec les heureux. Poussez la toile et entrez donc vous installer. Sous les étoiles, le rideau va se lever. Quand les trois coups retentiront dans la nuit, ils vont renaître à la vie, les comédiens. Viens voir les comédiens, voir les musiciens,
voir les magiciens qui arrivent bien, voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent, les comédiens ont démonté leur tréteau, ils ont monté leur estrade et brillé les calicots. Ils laisseront au fond des cœurs de chacun un peu de la sérénade et du bonheur d'Arlequin. Demain matin, quand le soleil va se lever, ils seront loin et nous croirons avoir rêvé. Mais pour l'instant, ils traversent dans la nuit d'autres villages endormis, les comédiens. Viens voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens.
Catherine Rétoré, je rappelle que vous êtes professeure de respiration et que, encore une fois, vous écoutez avec beaucoup d'attention la façon de chanter et de jouer aussi et de dire le texte d'Aznavour.
Moi, je repère le rire. Il parle souvent du rire. Il dit « on riait tout le temps » ou il parle du rire de son père quand il parle de son enfance. Il parle de cette vitalité. Sûrement, il a été attentif à cette vitalité et à l'entretenir, à s'obliger à l'entretenir. À partir du moment où il est sur cette vitalité, cette respiration profonde et vivante, il a la possibilité d'explorer tous les registres. Tout son registre est vaste.
Vous ne l'avez pas rencontré, Catherine Rétoré, mais vous en parlez bien, je trouve, Bertrand Dical, de cette flamme intérieure. Parce qu'il a vécu, et sa famille a vécu des atrocités. Enfin, on connaît la tragédie arménienne et du génocide arménien. Mais il y a toujours cette joie de vivre. Je m'amuse, je prends ce qui passe et j'avance.
Il y a, chez Aznavour, cette espèce de pulsion de plaisir et qui est une pulsion de plaisir de comédien, de chanteur, d'auteur, de compositeur, d'affronter la vie en se disant qu'on va y survivre, qu'on va surmonter les épreuves. Il commence à gagner sa vie à 9 ans, il est petit, il est laid, c'est incontestable. Tous les témoins disent, et tous les enregistrements qu'on a, là on entendait le feutre Topé, qui est encore un des plus généreux avec lui. Effectivement, il a une voix assez curieuse, hein, là, quand il a 20-25 ans. C'est pas encore le bel organe qu'il aura des années plus tard. Donc il y a un ensemble d'obstacles qu'il affronte. Et on se dit, mais il y arrive grâce à ça.
Je savais que ça marcherait. J'en étais sûr et certain. J'ai eu des moments de découragement, j'ai eu des moments où je voulais abandonner, le soir, mais le matin, je savais que ça marcherait. Je ne suis ni pratiquant, ni vraiment croyant. Je ne crois que quand ça m'arrange vraiment, comme beaucoup de gens. Mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est comme ça, que mon chemin est tracé, dur ou pas dur. Enfin, pour moi, il a été difficile. Mais je m'en suis pas rendu compte parce que j'ai fait une chose que j'aimais et je savais que ça irait. Je savais que ça marcherait.
Catherine Rétoré, je vais vous laisser partir à vos cours car vous avez des élèves, acteurs et pas seulement comédiens d'ailleurs qui viennent apprendre à respirer et à se sentir mieux grâce à vous et chez vous. Mais vous avez regardé des vidéos d'Aznavour qui chante et vous m'avez dit en arrivant, j'ai toujours été frappé par l'intensité du regard d'Aznavour.
Oui, le regard, c'est la respiration, c'est la concentration, c'est le feu intérieur. Donc, pour un acteur, ce qu'il faut qu'il travaille, c'est l'intériorité. Et souvent, Aznavour en parle de cette intériorité. Il la revendique, il s'y oblige. On voit qu'il est en connexion avec le monde extérieur autant que son monde intérieur.
Il y a un homme qui s'appelle Gérard Davoust, qui a un petit peu plus de 80 ans, qui connaissait bien Aznavour, qui m'a dit, la première fois que je l'ai vu, son regard perçant m'a traversé. Qui est Gérard Davoust, Bertrand Dical ?
Gérard Davoust est un très grand personnage de maison de disque. Il était très très important chez Philips.
Producteur,
on lui doit un nombre incroyable d'aventures artistiques. Il a racheté les éditions Raoul Breton, édition historique notamment de Charles Trenet. Raoul Breton avait été lui-même un immense éditeur qui avait soutenu Aznavour à ses débuts. Il est mort prématurément à la fin des années 50. Et quand sa veuve est décédée, Davoust et Aznavour ont racheté ensemble les éditions Raoul Breton. Les éditions Raoul Breton, aujourd'hui, c'est Agnès Bille, c'est Alexis HK, la coédition de Grand Corps Malade. C'est des éditions qui, aujourd'hui...
Linda Lemay.
C'est un énorme catalogue dans le passé de la chanson, un énorme patrimoine qui autrement serait parti chez une major anglo-saxonne et une actualité concrète aujourd'hui dans la chanson d'aujourd'hui.
Je suis allé rencontrer Gérard Davoust dans son bureau 67, boulevard de Courcelles à Paris, là où Aznavour, bien sûr, se rendait régulièrement, puisqu'ils étaient patrons tous les deux, et le chanteur y était encore quelques jours avant sa mort.
J'ai vu arriver Charles Aznavour, je devais avoir 17 ans. Je l'entendais surtout à travers les jukebox. Et ça nous enchantait, je veux dire, nous, les gens de cet âge-là, les jeunes, en somme, qui chantaient Oublie Loulou.
J'étais amoureux fou de demoiselle Loulou. C'était une obsession, j'en perdais la raison. Je n'avais plus d'appétit, je ne dormais plus la nuit. Et tous mes amis me disaient ceci: Oublie, oublie Loulou. Mais oublie Loulou, oublie la dent. Oublie, oublie Loulou. Mais oublie Loulou, oublie la dent. Si tu ne le veux pas, tu ne le peux pas, tu ne le pourras pas. Ah, ah. Si tu le veux, tu le peux, c'est un jeu, et voilà. Ah.
C'était tellement nouveau. Alors évidemment, cette génération-là était assez saisie par les créations américaines, le jazz et le scat. Et tout d'un coup, que des Français chantent comme ça, avec un tel sens du rythme, on n'avait jamais vu ça, parce que les duettistes, c'était la mode des duettistes, qui les avaient précédés, n'étaient pas particulièrement swing.
Racontez-nous, Gérard Davout, votre collaboration, qui va devenir une amitié, avec Charles Aznavour.
Ben, ça s'est fait indirectement grâce à son beau-frère, Georges Garvarens.
Compositeur.
Compositeur de beaucoup de musique de film. Et comme ça, nous sommes devenus amis. Très vite, Charles a eu envie de me montrer ses créations. Et puis, ça n'a plus cessé. Il le disait encore il y a quelques temps. Ma première oreille, mon premier auditeur, c'est Gérard. Parce que je sais qu'il me dirait toujours la vérité. Il répétait souvent d'ailleurs à des jeunes, il faut que vous ayez quelqu'un, mais pas qui vous admire et qui vous adore, mais qui soit capable de vous dire la vérité. Il y avait un public qui le reconnaissait, malheureusement il y avait une critique qui ne le reconnaissait pas du tout, ou qui le reconnaissait pour jouer au jeu de massacre.
Les premiers pas de Charles Aznavour sont difficiles. Il est étrié par la critique. Aznavour has no voice. La presse l'affuble de tous les sobriquets. Le microphage, l'enroué vers l'or, la petite calasmitée. Le cœur lourd et le bagage mince, Charles Aznavour mettra plus de 10 ans à imposer sa présence sur scène.
Enfin, vous avez réussi parce qu'en fait, vous avez joué avec tous vos défauts. Car au départ, tout était contre vous. Hein.
Oui, mais je n'y ai pas pensé. C'est important, il faut jamais se trouver laid, petit et plein de défauts. Je crois qu'au contraire, il faut se faire confiance. Et je me suis fait confiance, je me suis habitué à moi-même. On m'a tellement dit que j'étais petit que je me suis acheté des chaussures à talons plus hauts. Et puis ça m'a fatigué, et puis je les ai jetées tout de suite. Et puis j'ai repris mes talons plats, c'était ridicule.
Et la voix, vous la trouviez bonne?
Ah oui, mais maintenant, dites-moi, c'est une vraie voix que j'ai.
Oui, hein, vous le pensez
c'est...
vraiment hein.
Ah oui, à l'époque, c'était la voix de garage, quoi. Eh, par ici, Charles, ton pneu. Raoul le Breton, l'éditeur, disait « Ouais, bah t'as la voix comme Armstrong ». Et comme j'avais beaucoup d'admiration pour Armstrong, ça me tranquillisait.
Et à la fois, il avait une voix plus étendue, mais elle était voilée. Alors on n'avait jamais entendu ça. Après, il y a eu Adamo, tout le monde a accepté Adamo. Mais c'était l'époque. Quand on est un précurseur, je crois qu'on a toujours des barrières à abattre.
J'ai travaillé des années sans répit, jour et nuit. Pour réussir,
eh oui.
Pour gravir,
oh oui,
le sommet. En oubliant,
oubliant,
souvent
dans
ma course contre le temps. Mes amis, mes amours, mes emmerdes.
Gérard Davout, quand vous me parlez, vous regardez un piano en face de vous, un piano bleu. On en parle souvent quand on parle de votre bureau, c'est un piano qui a vécu. Racontez-nous l'histoire de ce piano, qu'est-ce qui s'est passé là?
Ce piano avait été acheté par monsieur et madame Breton pour Trenet. Et il a composé sur ce piano beaucoup de choses. Puis ensuite, Charles Aznavour est arrivé et il est devenu le piano d'Aznavour. C'est-à-dire que... On peut imaginer que beaucoup, beaucoup de grandes mélodies sont nées sur ce piano-là, par Trenet d'abord, vraisemblablement la mère d'ailleurs, et ensuite à Charles Aznavour. Voilà. On entend suffisamment qu'il n'est pas accordé malheureusement.
Je regarde un petit peu ce qu'il y a comme photo, parce que vous aimez vivre entouré de photos. Il y a le petit Jean-Jacques Debout, je crois le reconnaître, là-bas.
Ben, je vous félicite, parce que la plupart des gens, c'est un test que je m'amuse à faire de temps en temps. Il avait 16 ans, là. Puis à gauche, on a Raoul Breton.
Oui. Et à droite, Aznavour.
Et à droite, Aznavour.
On peut regarder les autres photos ailleurs, dans le couloir?
Oui, oui, oui. Oui, oui. Oui, il y a, bien sûr, il y a notamment une grande litho d'Edith Piaf. Avec une particularité. Là, la voilà.
Ah oui.
C'est écrit Piaf avec deux F.
Ah oui.
Et c'est l'imprimeur qui a fait la faute et elle a été gardée comme ça parce qu'elle était belle.
Et puis on aperçoit là, Traîné et Aznavour, ils ont l'air d'avoir 14 ans, de se marrer.
Oui.
Il y a une complicité évidente.
Et d'autant plus que derrière, Traîné voulait faire cette photo et avoir Charles avec lui parce que c'est un peintre de ses amis qui a fait cette toile et c'est censé représenter Charles Aznavour.
Ah bon ? En clown, oui.
Oui, en clown avec un singe et comme dans le cirque, les animaux sages à qui on jette des sous sur leur passage.
Je suis un cabotin dans toute sa splendeur, je suis né pour jouer. Donnez-moi un tréteau, minable et sans chaleur, je vais me surpasser. Je suis un cabotin dans toute sa splendeur, mais j'ai ça dans le sang. Donnez-moi quatre planches et quelques spectateurs et j'aurai du talent, du talent.
Je continue de regarder ces deux gamins, là, Aznavour et Traîné, qui ont déjà un certain âge, hein, qui ne sont pas des enfants. Et je me dis que vous avez quand même eu souvent du courage parce qu'ils avaient un fichu caractère.
Non, pas du tout. Traîné, à sa manière, oui. Quant à Aznavour, il n'a jamais eu mauvais caractère, il peut s'énerver parce qu'il est tellement gentil qu'il y a des moments où il a du mal à dire des choses désagréables, alors il faut se mettre en colère et ça passe mieux. Mais à part ça, c'était le professeur de si on a pari au moins une fois par jour, on a gâché la journée. Et il était gentil avec les musiciens, il était gentil avec la concierge, il était gentil avec tout le monde.
Jusqu'à sa mort, il a travaillé. Il a écrit des chansons, il était en train d'écrire une nouvelle autobiographie. Ça, vous pouvez le confirmer, Gérard Dabouste.
Il n'écrivait pas une autobiographie, mais il mettait la dernière main, d'ailleurs, en fait, il paraîtra certainement, de son regard sur le monde, sur la vie. Il avait fait trois petits opuscules, et c'était le quatrième de la série, dans laquelle il fait les réflexions sur la vie, sur le métier. Et c'est quelqu'un qui a toujours été extrêmement en avance ou extrêmement différent. Et il a pris sous son aile, par exemple, Johnny Hallyday, ben, tout le monde le sait, mais c'était l'époque où moi je l'ai entendu, où dans une certaine radio, le directeur avait dit à l'antenne, je vais casser ce disque-là qui ne passera jamais sur notre antenne. C'était pas un grand prophète, mais fait à son âme. Mais dans le même temps, Charles Aznavour le prenait, Johnny, sous son aile, et le défendait, l'aidait, lui donnait des conseils. Ce dont il n'était pas coutumier. Nous avons donné le prix Raoul Breton à MC Solar quand le rap arrivait et que des tas de gens criaient au scandale. Il a toujours été en avance et il incarnait la jeunesse, définitivement. Il aimait tout ce qui était nouveau, tous les gadgets les plus... Il a été un des premiers à avoir un ordinateur portable. Il tournait un film à ce moment-là, je me souviens, en Luxembourg, j'avais été le voir, et il me disait, ah, c'est formidable, parce qu'entre les pauses, qui sont souvent longues dans les films, les tournages de films, il rentrait dans cet ordinateur les textes de ses chansons, que le secrétaire aurait pu faire, mais non, il était content de le faire lui-même, et il disait, et en plus, je ne perds pas de temps. C'était un homme qui vivait sans regret, et qui ne se retournait pas, ou sauf... Il avait horreur que des vieux camarades viennent lui dire « Ah, tu te souviens, etc. » et de larmoyer. Ah, il lui disait « Protégez-moi de cela. »
Il n'est plus là, Charles Aznavour. Vous l'avez fréquenté énormément pendant des dizaines d'années, Gérard Dabouste. Vous pensez qu'il sera présent à votre esprit à quelle occasion ?
Il est présent dans mon esprit tout le temps. Il n'y sera plus quand moi-même, je n'y serai plus.
On va se quitter sur une chanson d'Aznavour. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, Gérard Dabouste ?
Il y a encore... Celle-là, avec son écriture extraordinaire, il m'a confié qu'il avait mis 5 ans à trouver cette musique-là. Et là, il n'avait pas demandé à un autre compositeur de le faire. Il a cherché pendant longtemps. Il avait écrit le texte sur une autre de ses musiques, mais qui existait déjà, qui avait été utilisé pour un autre texte. Et il a mis 5 ans, mais il a trouvé ce qu'il fallait exactement.
Vous sauriez la chantonner, vous ?
Hier encore, j'avais 20 ans. Mais vous savez, je chante faux. Alors, il y a des gens qui chantent faux et qui ne s'entendent pas. Et moi, je chante faux, mais je m'entends.
Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour, et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air, j'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés, que je reste perdu ne sachant où aller, les yeux cherchant le ciel mais le cœur mis en terre. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter, et pour le retenir, même le devancer, je n'ai fait que courir et me suis essoufflé. Ignorant le passé, conjuguant au futur, je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis que je voulais le bon, pour critiquer le monde avec désinvolture. Hier encore, j'avais 20 ans, mais j'ai perdu mon temps à faire des folies qui ne me laissent au fond rien de vraiment précis que quelques rides au front et la peur de l'ennui. Car mes amours sont mortes avant que d'exister, mes amis sont partis et ne reviendront pas. Par ma faute, j'ai fait le vide autour de moi et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années. Du meilleur et du pire, en jetant le meilleur, j'ai figé mes sourires et j'ai glacé mes pleurs. Où sont-ils à présent, mes 20 ans?
Le Grand Atelier sur France Inter.
Charles Aznavour, le public s'est trouvé un jour en face d'un garçon qui s'appelait Charles Aznavour, qui était un chanteur et qui chantait avec une voix qui n'était qu'à lui, il faut bien le dire.
Oui.
On pourrait presque dire même une absence de voix, n'est-ce pas ? Une voix cassée, une voix broyée.
Oui. Je travaillais donc avec Pierre Roche, et Pierre est un garçon qui préférait jouer dans certains tons que dans d'autres. Mais il me disait, il n'y a aucune raison. Si tu ne pousses pas la note, tu n'auras jamais une tessiture assez grande. Alors j'ai poussé les notes. Là, un sol, je le donne très bien. Seulement, ça a tué tout le reste. J'ai été voir des médecins et ils m'ont dit, je vais vous donner un bon conseil, mon petit, et tous. Ne chantez jamais, car si vous essayez de chanter, dans 6 mois, vous ne pourrez plus parler. Ça fait de ça 6 ans.
56. Vous entendez comment le journaliste parle à Aznavour ? On n'ose plus parler comme ça aujourd'hui à un artiste. Hein ?
On n'ose plus parler comme ça aux artistes, mais c'est vrai que Aznavour a pris des coups un peu plus que les autres.
On lui reproche sa voix voilée, on lui reproche sa petite taille, on parle de son nez et on parle aussi de sa passion pour l'argent. J'ai l'impression, comme vous l'écrivez d'ailleurs dans Tout Aznavour, Bertrand Dical, qu'il provoque une hargne singulière.
Il y a des journalistes qui ont écrit des choses très très étranges et qui rappelle vraiment le ton sur lequel, dans la presse de Vichy, on parlait des Juifs. Il y a un journaliste dans un quotidien du matin des années 50, un quotidien aujourd'hui disparu, qui avait parlé de sa voix voilée et quelque part, enfin, il parlait d'Aznavour et quelque part il y a les doigts crochus. Mmh. Les doigts crochus. C'est tout de suite on est dans des références. Et Aznavour a mis énormément de pudeur là-dessus, mais il y a quelque chose avec la réputation des Arméniens, dans une certaine presse, dans une certaine France, et il en souffre. Par ailleurs, il est incontestable que Charles Aznavour a fait fortune avec la chanson. Il fait 2 ou 3 bêtises que le fisc et la justice française condamnent.
En 76.
Voilà, il doit vendre une maison, il doit vendre ses tableaux, il a des soutines. Par exemple, il doit vendre tout ça et ensuite il refera fortune. C'est vrai que Aznavour est aussi quelqu'un qui ne peut pas cacher sa petite taille, qui ne peut pas cacher sa voix, qui ne peut pas cacher le fait qu'il n'a pas des cheveux qui restent tous sur sa tête. Il ne peut pas cacher tout ça et il ne cache pas qu'il gagne de l'argent. C'est un entrepreneur, il est son propre éditeur de musique. Et il est un des premiers artistes à être éditeur de musique et à éditer d'autres artistes. Donc il est l'éditeur de son beau-frère, Georges Garvarentz, qui a composé énormément pour lui, mais beaucoup pour le cinéma. Et c'est comme ça que Charles Aznavour va devenir l'éditeur du Déserteur de Boris Vian. Donc il est aussi un artiste entrepreneur, mais entrepreneur aussi pour aider les copains et pour donner des bons plans à ses copains en leur disant ben tiens, moi je vais t'aider, je vais essayer de vendre tes chansons à d'autres compositeurs et tu vas mieux gagner ta vie.
On a évoqué Pierre Roche avec qui il a beaucoup travaillé, au moins 8 ans de duo, Pierre Roche et Charles Aznavour. Il mettait en musique les textes d'Aznavour et il faisait partie d'une bande au départ, c'était la bande de Piaf. Piaf a compté dans sa vie. Ils n'ont pas été amants, ça Charles Aznavour l'a souvent précisé. La relation avec Piaf est curieuse, d'ailleurs elle l'appelle le génie con, tout en l'aimant bien, tout en lui disant aussi parfois qu'il fera jamais carrière. C'est assez ambigu, je trouve, le rapport de Piaf à Aznavour.
Elle l'aime beaucoup parce que au départ, il sait danser la valse à l'envers, qui est un truc de danseur, de vrai danseur de bal musette, de vrai danseur populaire.
Et puis c'est un gosse des rues comme elle.
C'est un gosse des rues comme elle. Ils ont la même culture de la rue, de la démerde, de la mouise. Ils se reconnaissent.
Elle lui fait faire tous les petits travaux, hein.
Et puis elle lui fait faire tous les petits travaux, c'est-à-dire qu'il est éclairagiste, chauffeur, bagagiste. C'est lui de temps en temps qui doit aller rappeler à l'organisateur du concert qu'il faut payer le cachet de madame. Mais quand il faut choisir un jeune chanteur pour faire la première partie d'une rentrée parisienne, c'est jamais Aznavour. Aznavour, il chante en levée de rideau. Une ou deux chansons à Maubeuge, à Hénin-Liétard, à Pézenas. Enfin, je n'ai rien contre ces villes, mais jamais à Paris.
Édith Piaf m'a prise avec elle dans ses tournées. Et alors, à partir de ce moment-là, quand j'avais chanté 2 chansons, il fallait que je parte en courant. Mais alors, vraiment en courant. Parce que lorsque je me retournais, vous savez, on se retourne un petit peu, on prend son temps, on sort, et puis on revient pour saluer. Moi, j'avais même pas remué le nez de 4 cm que plus personne n'applaudissait. J'ai fait 3 ans de tournée régulièrement dans les mêmes villes avec les mêmes chansons. La première année, ils ont été mécontents. La deuxième année, ils se sont dit, il faut le tuer. Et puis la troisième année, je ne sais pas ce qui s'est passé, ça a marché. Alors on m'a dit, ils ont dû s'habituer à toi. Bon, puisqu'on est là, qu'on ne peut pas faire autrement, qu'Édith Piaf nous l'impose de force, autant ne pas faire de scandale, écoutons ce qu'il dit. Et puis je suppose que mon texte a pris le dessus sur ma voix.
Et pourtant, il reste avec elle. Hein.
Pourtant, il reste avec elle parce que la soupe est bonne, parce qu'il s'amuse bien, parce qu'il rencontre beaucoup de gens. Il voit que Piaf prend des leçons d'anglais, que Piaf prépare ses interviews, que Piaf se fait briefer sur le journaliste, le journal, le lectorat du journal qui va l'interviewer.
Elle écoute toutes les musiques qui se font dans tel ou tel pays.
Elle écoute tout ce qui se fait, elle écoute le hit parade, elle écoute aussi ce qui ne marche pas. Pour bien comprendre ce qui ne marche pas et ce qui va faire un bide.
Tout ce que fera Aznavour par la suite, hein.
Tout ce qu'il fera, tout ce qu'il industrialisera, tout ce qu'il radicalisera, parce que Piaf le fait avec une espèce de passion un peu foutraque, un peu désordonnée, un peu brouillonne, un peu alcoolique aussi, il faut bien le dire, alors que lui, il fait ça de manière très sobre, très réfléchie. Aznavour, de ce point de vue-là, c'est un peu le génie de Piaf, plus le fait que pour lui, tout est plus difficile que pour Édith Piaf.
Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux.
Plus blanc que tes cheveux dorés, ne peut s'imaginer, même le blond des blés.
Plus pur que ton souffle si doux, le vent même au mois d'août ne peut être plus doux.
Plus fort que mon amour pour toi, la mer, même en furie, ne s'en approche pas.
Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux.
Si un jour tu devais t'en aller et me quitter,
mon destin changerait tout à coup, du tout au tout. Plus gris que le gris de ma vie, rien ne serait plus gris, pas même un ciel de pluie.
Plus noir que le noir de mon cœur, la terre en profondeur n'aurait pas sa noirceur.
Plus vide que mes jours sans toi, aucun gouffre sans fond ne s'en approchera. Plus long que mon chagrin d'amour, même l'éternité près de lui serait courte. Plus gris que le gris de ma vie, rien ne serait plus gris, pas même un ciel de pluie.
On a tort de penser, je sais bien, au lendemain.
À quoi bon se compliquer la vie, puisqu'aujourd'hui, plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux.
Plus blanc que tes cheveux dorés ne peut s'imaginer, même le blanc des blés. Plus pur que ton souffle si doux, le vent même moins doux ne peut être plus doux.
Plus fort que mon amour pour toi, la mer même en furie ne s'en approche pas. Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois que
le duo virtuel Piaf-Aznavour en 97, chanson, paroles et musique de Charles Aznavour, Bertrand Dical.
C'était la première chanson, paroles et musique d'Aznavour qu'avait accepté Piaf. Parce que Aznavour avait cet avantage quand il était à la cour de Piaf, c'est qu'il pouvait lui proposer à elle des chansons. Et quand il a quitté Piaf, c'est-à-dire que quand il s'éloigne de son orbite au début des années 50, là, les portes claquent vraiment. Il donne à Juliette Gréco, dans les derniers temps où il est chez Piaf, il lui donne Je hais les dimanches, ce qui provoque une colère épouvantable d'Edith Piaf, parce qu'avec cette chanson, Juliette Gréco, qu'elle déteste, a gagné le prix Edith Piaf de la chanson au Festival de Deauville.
Quand je suis revenu chez Piaf et qu'elle a entendu le disque de Gréco, elle m'a dit, mais elle m'a fait mon salaud, t'as donné ma chanson à cette chanteuse de Saint-Germain-des-Prés. J'ai dit, je n'ai pas donné votre chanson, j'ai donné la chanson que vous avez refusée, et la mauvaise foi était extraordinaire. J'aimais beaucoup la mauvaise foi de Piaf. Elle m'a fait, moi j'ai refusé une chanson pareille. Ben, j'ai dit, oui, vous l'avez refusée.
Vox Populi m'a dit qu'elle était furieuse qu'elle avait engueulé ce pauvre Charles après lui avoir refusé sa chanson et que moi elle m'avait en antipathie profonde. Voilà, elle m'aimait pas du tout, du tout, du tout.
Mais en tout cas, c'est vrai qu'elle l'a chanté ensuite en disant je vais lui montrer moi cet existentialiste comment on la chante la chanson. Et finalement, Edith s'est trompée. Le succès ça a été par Juliette.
Tous les jours de la semaine sont vides et sonnent le creux. Mais il y a pire que la semaine, il y a le dimanche prétentieux qui veut paraître rose et jouer les généreux. Le dimanche qui s'impose comme un jour bienheureux. Je hais les dimanches. Je hais les dimanches.
Vous restez avec nous, Bertrand Dical, auteur de Tout à Saint-Bourg ?
Évidemment.
À tout de suite.
J'ai l'impression que je ne mourrai jamais. Il y a des gens qui croient qu'ils vont mourir et qui ont les affres de la mort. Moi, j'ai l'impression que je ne mourrai jamais. Ça paraît drôle, mais j'en ai pas l'impression. Et à chaque fois que je le dis à mes amis, ils se moquent de moi. Quand je me touche, je sais que je suis vivant. Et puis, je n'ai pas du tout l'impression qu'un jour, mes yeux ne verront plus rien et que je n'entendrai plus de musique et que je ne ferai plus rien.
Nous poursuivons l'hommage à Charles Aznavour, deuxième heure en compagnie de l'un de ses biographes, Bertrand Dical. Lisez de lui Tout Aznavour. Nous entendrons aussi Françoise Fabian, à qui Aznavour a écrit des chansons. Nous évoquerons son pays d'origine, l'Arménie, avec le photographe Antoine Agoudjian. Bertrand Dical, il avait plein de projets encore. On le disait tout à l'heure avec Gérard Davoust, Aznavour, un livre, un disque, un tour de chant. Il voulait aussi régler le récital de son centenaire, mais on peut dire que le cœur a lâché.
Effectivement, il a commencé à parler du concert de son centenaire en 2014 ou 2015. Il a commencé à en parler à ses proches en disant J'ai chanté à Carnegie Hall, j'ai chanté à l'Olympia, j'ai chanté à l'Opéra de Paris.
Et il meurt en plein mouvement.
Voilà, il meurt en plein mouvement et il disait « Trouvez-moi une idée, un endroit où je pourrais chanter pour le concert des 100 ans. » Et il avait cette envie-là. Aznavour a toujours eu un rapport très très compliqué à sa retraite. Ce qui est amusant, c'est que Aznavour a à peine plus de 40 ans dans les années 60, quand des journalistes commencent à lui dire « Mais qu'est-ce que vous ferez pour votre retraite ?» Donc il a répondu tout et son contraire, qu'un jour il arrêterait, qu'un jour il arrêtera pas, qu'il continuera, puis qu'il continuera pas, et puis qu'il continuera à écrire. Enfin, il a dit beaucoup de choses. Il a fait une chanson dans les années 80 qui disait qu'il ne s'arrêterait pas. Il a écrit en 2007 une chanson totalement extraordinaire qui s'appelle « J'abdiquerai », qui est une chanson dans laquelle il semblait régler les derniers temps, les dernières années.
Bien sûr, ce fut très long, mais étant optimiste, j'étais certain qu'un jour, je deviendrais l'artiste, reconnu de ses pairs et comblé de bravo. Le pire et le meilleur, j'en ai fait mon affaire, et s'il me reste encore un beau spectacle à faire, un bel enterrement flatterait mon ego.
Au milieu de la chanson, c'est même pas à la fin, au milieu de la chanson, il dit « Et s'il me reste un dernier spectacle à faire, un bel enterrement flatterait mon ego. » Et c'était en 2007, donc c'est quand même un peu gonflé quand même de chanter ça, de dire « Un bel enterrement flatterait mon ego. » Et il dit « Justement, comme ça je verrai leur tête. »
On va l'écouter en 63, c'est une date importante dans la vie et la carrière de Charles Aznavour, c'est au Carnegie Hall à New York, et on va entendre à nouveau le comédien qui pointe toujours derrière le chanteur.
Chaque fois que je vais dans un pays étranger, ça ne rate pas. On me dit, j'espère que vous chantez dans notre langue. Et je suis obligé de répondre soit ya, soit yes, soit si. Ça pose d'ailleurs parfois certains problèmes, mais ça donne aussi quelquefois des résultats assez surprenants. Par exemple, dans un certain pays, ça a donné... Et quand al fin verra la felicità che vicini ci vedra, piangerò di gioia. Dans un autre, pas très loin de la France, juste de l'autre côté d'une petite mer... Ça m'a été tout de même relativement facile parce qu'on m'avait dit ici, surtout ce qu'il faut, c'est respecter le temps fort. Penser le temps fort, j'en ai fait mon affaire. Ça a donné. In Brazil, you're invited, delighted, excited, down. Je ne disais pas tout parce que j'en gardais pour la chanson suivante. Avec tout de même cette tranquillité d'esprit de savoir que eux comprenaient tout justement à cause de ce fameux temps fort. Au pays de l'amour et de la poésie, après la France, je tiens à le préciser naturellement. Je leur ai chanté Zwei Zigeuner in der Nacht singen zur Gitarre spielen meine Sehnsucht war wo sind all die Jahre tout ça avec l'émotion et la tendresse qu'il fallait que je donne, n'est-ce pas? Merci de reconnaître mon accent.
Du bist so komisch anzusehen. Denkst du vielleicht, das find ich schön, wenn du mich gar nicht mehr verstehst und mir nur auf die Nerven gehst? Ich trinke schon die halbe Nacht und hab mir dadurch Mut gemacht, um dir heute endlich zu gestehen. Ich kann dich einfach nicht mehr sehen mit deiner schlampigen Figur. Gehst du mir gegen die Natur? Ah, che spettacolo che sei, con quelle calze sempre giù, mezza truccata e mezza no, coi bigodini ancora su. Io mi domando come può un uomo aver amato te. Io l'ho potuto ed oltre a ciò la vita ho dedicato a te. Sembri tua madre che non ha nessuna femminilità. Va, mes amis, quelle catastrophe. Tu me contredis, tu m'apostrophes. Avec ton venin et ta hargne, tu ferais battre des montagnes. Ah, j'ai décroché le gros lot le jour où je t'ai rencontré. Si tu te taisais, ce serait trop beau, non? Tu te laisses aller, tu te laisses aller. Tu es une brute et un tyran. Tu n'as pas de cœur et pas d'âme. Pourtant, je pense bien souvent que
que malgré tout tu es ma femme. Si tu voulais faire un effort, tout pourrait reprendre sa place. Pour maigrir, fais un peu de sport. Arrange-toi devant ta glace. Accroche un sourire à ta face, maquille ton cœur et ton corps. Au lieu de penser que je te déteste et de me fuir comme la peste, essaie de te montrer gentil. Redeviens la petite fille qui m'a donné tant de bonheur. Et parfois, comme par le passé, j'aimerais que tout contre mon cœur, tu te laisses aller, tu te laisses aller.
Tu te laisses aller, une chanson des années 60, Bertrand Dicale.
Tout début des années 60. Hein. C'est d'ailleurs une chanson. Encore une fois, on a oublié le choc que c'est. C'est une chanson qui est en train de raconter l'histoire d'un type qui est saoul et qui regarde sa femme et qui dit qu'elle est trop grosse et qu'elle a les bas qui plissent.
Oui,
et
il est conscient de ce qu'il dit dans cette chanson. D'abord, on l'a taxé de misogyne, c'est pas le cas.
C'est pas le cas.
C'est un personnage.
Il raconte le personnage. D'ailleurs, des années plus tard, il fera une autre chanson qui est la chanson du type qui parle de lui-même, le même personnage qui parle de lui-même, et cette chanson s'appelle « Je bois », c'est une chanson des années 80, et en fait, il renverse complètement plusieurs traditions, c'est-à-dire qu'avant, les gens qui étaient laids, les gens qui étaient méchants, les gens qui étaient ivres, c'était la tradition réaliste, c'était celle de Fréhel, c'était celle d'avant la guerre, et puis, dès qu'il y avait des violons, on était dans le romantisme, donc on était dans quelque chose d'éthéré, dans quelque chose d'idéal, et là, soudain, il met la vraie vie. Et pas la vraie vie du bas-peuple, pas la vraie vie des bas-fonds, non, la vraie vie de tout le monde. À la même époque, il fait une autre chanson qui fascine presque autant dans la presse de l'époque, c'est « Bon anniversaire ». Et dans « Bon anniversaire », il parle d'une fermeture éclair coincée. Et il y a évidemment des critiques qui disent « Mais comment on peut faire une chanson dans laquelle il y a une fermeture éclair ?» Mais
faut préciser qu'il a été extrêmement censuré à la radio.
Il a été extrêmement censuré à la radio parce que la radio, à l'époque, avait des oreilles chastes. Hein. Il faut pas oublier que dès qu'il y avait le mot « ventre » dans une chanson, la chanson ne passait pas à la radio. Il a chanté « Après l'amour ». C'est la première fois que quelqu'un chante ça en France. « Après l'amour », c'est juste exactement ça.
« Après l'amour, quand nos membres sont lourds, au sein des draps froissés, nous restons enlacés. Après l'amour, pour rêver. »
Après l'amour, c'est un couple dans un lit, les draps sont froissés, on fume une clope, et rien que raconter ça, ça ne passe pas à la radio, mais ça séduit un nouveau public de la chanson.
On entendait Charles Aznavour parler et plaisanter avec le public américain. Bon, il y avait beaucoup de Français qui étaient venus l'écouter au Carnegie Hall en 63, mais c'est un homme qui a vécu plus de 70 ans de carrière, plus de 40 ans de succès, plus de 1400 chansons. 6 langues chantées, Bertrand Dicale, des milliers de concerts dans 82 pays. C'est phénoménal, ça, non ?
C'est phénoménal, mais ce travail d'exporter la culture française à l'étranger, ça a été pendant longtemps le boulot de Charles Aznavour à peu près tout seul. Et il sait que cette francité, le romantisme à la française, un certain érotisme, un certain réalisme, une certaine façon d'être français et d'incarner la francité, fût-ce dans une langue étrangère, c'est réellement un atout pour lui et pour la culture française en général.
Mais je suis français.
Oui, mais il y a bien des Français qui s'en foutent.
Oui, mais ils ont bien tort, parce que la langue française est une très jolie langue. Et puis, peut-être que s'ils s'en foutent, c'est parce qu'ils ont fait les études voulues pour s'en foutre. Moi, j'ai pas fait les études voulues. J'ai toujours le complexe de la parole, c'est la raison pour laquelle j'écris mieux que je ne parle. Et ça me peine beaucoup.
Il aurait été heureux de l'hommage national qui lui a été rendu.
Certainement, certainement, je pense. Aznavour, il ne faut pas oublier qu'il était commandeur de la Légion d'honneur, commandeur de l'Ordre national du Mérite, commandeur de l'Ordre national des Arts et des Lettres. Peu de Français ont été autant décorés que Charles Aznavour, et on ne fait jamais ça par hasard, on ne fait pas ça contre son gré. Oui, bien sûr, il aurait certainement été ému, profondément ému par cet hommage national.
Mais je voudrais savoir en quoi aujourd'hui, Charles Aznavour, êtes-vous un arménien ?
C'est mon folklore.
Ah, c'est plus que le folklore.
Non, c'est mon folklore. C'est-à-dire que je suis arménien parce que, bon, moi, on m'a baptisé à l'église arménienne, je baptiserai mes enfants à l'église arménienne, je me marie à l'église arménienne, je parle encore l'arménien avec des arméniens que je
rencontre. Vous parlez vraiment?
Oui, je parle vraiment, mais je ne lis pas et je n'écris pas l'arménien. Et puis, je cherche la reconnaissance du génocide, mais je la recherche d'une manière particulière. Je la recherche avec une main tendue, je la cherche pas avec de la violence. Je suis un homme d'aujourd'hui, je suis pas un homme d'hier. Je suis arménien jusqu'au moment où on aura tout ça, et puis après, je suis français, quoi.
Oui, mais s'il n'y avait pas eu ce passé, s'il n'y avait pas eu vos parents, s'il n'y avait pas eu tout ce qui s'est passé, peut-être auriez-vous eu moins de force pour combattre.
Probablement, mais ça n'est pas parce que j'étais arménien, c'est parce qu'on vient de la misère, ce qui est pas pareil. Ouais. Il y a une majorité de gens qui se sentent un petit peu déracinés à la base, et qui veulent réussir pour gagner une terre, pour gagner un pays, et le langage est un pays.
Le langage est un pays. Il est devenu de plus en plus arménien, lui qui était français, né à Saint-Germain-des-Prés, au fil de sa vie et au fil des événements tragiques qui ont pu se produire en Arménie, Bertrand Dical.
Oui, il y a les événements tragiques qui se sont produits. Donc on parle évidemment du tremblement de terre 88 et pour toi Arménie, qui va faire d'Aznavour le premier des Arméniens de la diaspora, puisque avec Pour toi Arménie, il va apporter énormément d'argent pour la reconstruction de l'Arménie, pour la reconstruction des écoles, des centrales électriques principalement. Mais il y a aussi une conscience là dans l'archive. Aznavour parlait de la violence. Faut pas oublier que la première chanson qu'il écrit, qui parle du génocide arménien, qui s'appelle Ils sont tombés, qui est absolument bouleversante.
Ils sont tombés sans trop savoir pourquoi. Hommes, femmes et enfants qui ne voulaient que vivre avec des gestes lourds comme des hommes ivres, mutilés, massacrés, les yeux ouverts d'effroi. Ils sont tombés en invoquant leur Dieu au seuil de leur église où le pas en troupeau de désert, titubant en corde, terrassé par la soif, la faim, le fer, le feu.
Aznavour est de plus en plus arménien et avoue de plus en plus à quel point c'est compliqué d'être arménien. Et je pense que Aznavour aurait dès le départ dit « je suis arménien, je veux cette reconnaissance », ça n'aurait pas eu le même poids. Tous les Français, tous les gens qui ont écouté Aznavour et qui ont écouté ce qu'il a dit sur l'Arménie ont été marqués par le fait qu'il a attendu l'âge mûr pour y arriver, qu'on a réellement senti sur le temps long que c'était une douleur et une douleur dont il parlait, mais aussi une douleur d'en parler. Ce qui est incroyable, c'est qu'il attend d'avoir 64 ans pour enregistrer pour la première fois une chanson en arménien, et c'est quand même fou parce que c'est sa fille aînée, Seda, qui l'invite à chanter en duo avec lui, sinon il ne l'aurait jamais fait.
Le Grand Atelier, Vincent Josse, sur France Inter.
Françoise Fabian est au téléphone avec nous. Bonjour, comédienne et désormais chanteuse. Vous avez enregistré un disque l'an dernier dans lequel on trouve une chanson d'Aznavour.
Bien sûr.
Comment se fait-il qu'Aznavour vous ait écrit ces chansons?
C'est parce que je lui ai demandé. J'ai dit à Charles, est-ce que je voudrais lui faire une chanson? Il me fait, oh oui, très volontiers. J'adore à écrire pour les femmes. Alors il m'a dit, tiens, j'ai deux chansons qui sont prêtes, c'est ma parole et musique. Voilà, lis-les, elles sont là. Alors j'ai lu les deux chansons, puis je lui ai dit, tu me donnes les deux? Il m'a dit, non, pas encore, je t'en donne qu'une. Et j'ai choisi Ce diable d'homme.
Ce diable d'homme. Il s'est mis au piano et il vous l'a chanté avant?
Ah, pas du tout. Il m'a donné la musique et les paroles, et c'est moi à la maison qui ai tout traduit. J'ai toujours aimé les chansons, j'ai chanté à la télévision, j'ai chanté dans les films, mais j'ai jamais fait un album. Après avoir écouté le disque, il m'a envoyé une autre chanson. C'est pas merveilleux, ça? Parce que j'ai pas enregistré encore, parce que c'est arrivé plus tard. C'est quelqu'un qui est tellement... Oh, j'arrive très mal à parler de lui au passé.
Qu'est-ce que vous retenez de la trajectoire d'Aznavour? On en parle là depuis un moment avec Bertrand Dical, de son acharnement à être devant un public et à chanter ses chansons.
Je n'appelle pas ça son acharnement, parce que acharnement, c'est, ça veut dire qu'on se débat contre quelque chose qui est contre vous. Charles, il a eu beaucoup de difficultés dans sa jeunesse. Il avait une revanche à prendre. Une revanche contre son physique, une revanche contre les critiques, sa voix, etc. Il a beaucoup travaillé, il a beaucoup de talent. Il savait déjà qu'il avait beaucoup de talent. D'ailleurs, il l'a prouvé. Il est extraordinaire, ce petit bonhomme arménien dont la famille a fui le génocide et qui s'élève dans le monde entier. Mais c'est un parcours extraordinaire. Et ça, c'est le mental. Hein. C'est le mental.
Eh bien, merci de votre témoignage, Françoise Fabian. On va écouter ce diable d'homme.
Je parle d'Aznavour, je suis prête.
Je croyais à l'amour idyllique et céleste. J'ai peut-être un peu trop rêvé au cinéma. Ma province natale avait déteint sur moi. Et je vivais tranquille, sans haut et sans bas. Mais je me suis donné sans opposer un geste. Et quand j'ai dit donner, le mot est faible en soi. Un jour, un ouragan s'est abattu sur moi, dévastant mes printemps qui n'en revenaient pas. Ce diable d'homme, cette tempête, moitié enfant et moitié loup, parfois sérieux, plus souvent fou, a mis le désordre en ma tête et mon cœur sans dessus dessous. Ce diable d'homme, gorgé de sève, ce personnage hors du commun, n'obéissant qu'à ses instincts, qu'avait pas de place en mes rêves, j'en rêve. Ce diable d'homme, c'est le mien. Il est omniprésent, il s'agite et discute. Il déborde de vie, qu'il en est fatigant. Il m'achète des roses et m'impose des gens que je ne connais ni des lèvres ni des dents. Au lit, j'ai l'impression de vivre dans la hutte d'un géant primitif venu du fond des temps. Lorsque, broyant mon corps, il me dit véhément, il va falloir penser à se faire un enfant. Ce diable d'homme, cette tempête, moitié enfant et moitié loup, parfois sérieux, plus souvent fou, a mis le désordre en ma tête et mon cœur sans dessus dessous. Ce diable d'homme, gorgé de sève, ce personnage hors du commun, n'obéissant qu'à ses instincts, qu'avait pas de place en mes rêves, j'en rêve. Ce diable d'homme, c'est le mien. Il ne fait rien sans bruit, et même quand il pense, cela semble incroyable, il pense à haute voix, tandis qu'autour de lui tout fonctionne à la fois, disque, télé, radio, j'en oublie, croyez-moi. Il m'arrive d'avoir des envies de silence, de solitude à deux, seul à seul, lui et moi. Il ne dit jamais non, mais il rit aux éclats et prétend que l'on m'a élevé comme une oie. Ce diable d'homme, ce tendre orage, drôle d'amant et folle amie, fait souffler un vent de génie sur mes émotions prudes et sages et met le trouble dans ma vie. Ce diable d'homme, ce doux bohème qui me fait vivre au jour le jour, qui ne m'a jamais fait la cour et pas une fois dit je t'aime, je l'aime. Ce diable d'homme, mon amour.
J'ai toujours eu le complexe de la voix. Et j'ai tout fait pour essayer d'avoir une voix étendue. Enfin, moi, je travaillais pas d'une manière académique. Je hurlais, je me mettais au piano, je tapais sur une note, et jusqu'au moment où j'arrivais à attraper la note vocalement, je travaillais. Je me suis vraiment déchiré la gorge. Mais je crois avoir réussi.
Vous la dessinez comment, votre voix? Vous l'expliquez comment?
Non, je l'explique pas, surtout.
Feutré, Angola?
Je ne trouve plus que j'ai une voix feutrée. Avant, j'avais l'impression d'avoir un triple voile sur la voix, et puis tout d'un coup, j'ai l'impression que ça sort beaucoup plus facilement. Je suis souvent effrayé d'ailleurs, parce que je me dis, si je finis par avoir de la voix, ça va être la fin de ma carrière.
Est-ce qu'il était drôle, Charles Aznavour, Bertrand Dical?
Ce qui était très très drôle avec Aznavour, c'est quand il parlait de lui. Et il avait une espèce d'autodérision qu'il soignait beaucoup, à laquelle il tenait, qui permettait parfois, évidemment, de détendre l'atmosphère quand elle était face à des journalistes un peu hostiles. Il était, oui, effectivement, très, très drôle.
Alors, tout à l'heure, son ami Gérard Davoust nous disait, entre 15h et 16h, qu'il avait très bon caractère, mais pourtant, dans le métier, on entendait, Aznavour est antipathique, c'est pas un gars facile.
C'était pas un gars facile. Beaucoup de gens vous diront qu'il savait écrire, mais qu'il savait aussi très très bien compter. Ça, c'est une certitude. Mais en même temps, ça a été un artiste extrêmement généreux de ses conseils, de son aide. Alors, il y a des cas célèbres. Il y a Grand Corps Malade, Linda Lemay, ces dernières années, Alexis HK. Et puis, il y a Johnny. Aznavour est en train, lui, d'atteindre les sommets. Au tout début des années 60, quand en 60 arrive ce jeune homme, ce jeune Johnny Hallyday, et Aznavour fait partie de ceux qui lui disent, surtout, mon gars, écoute-moi bien, arrête tes histoires de « je m'appelle Johnny Hallyday, c'est mon vrai nom, je suis né aux États-Unis, j'ai grandi dans un ranch, tu vas te trouver face à un journaliste, et crois-moi, je les connais, tu vas te trouver face à un journaliste qui va te mettre sur un cheval. Tu sais monter à cheval? Non. Ben viens chez moi, je t'apprendrai à monter à cheval. » Et Aznavour, on a plein de photos de Johnny en week-end ou en vacances dans la maison de Charles Aznavour à côté de Montfort-l'Amaury. Aznavour a tout le temps, toujours, aidé des jeunes, soutenu des jeunes.
Il lui donne « Retiens la nuit ».
Il lui donnera « Retiens la nuit », il lui donnera « Retiens la nuit » avec une idée et un conseil, qui est que Johnny, ça y est, à la victoire, il est au sommet auprès des gamins. On sait déjà que les gamins vont garder pendant quelques années Johnny Hallyday dans l'oreille, mais Aznavour est convaincu qu'il faut que Johnny touche le public des adultes. Il touchera le public des adultes avec une chanson romantique, une chanson lente, une chanson dans laquelle on entend les mots, on comprend bien sa voix, et il lui donne « Retiens la nuit », musique Georges Gérard Varennes, parole Johnny Hallyday... Parole Charles Aznavour, et ça devient le premier succès très grand public de Johnny Hallyday, et effectivement, ça l'ouvre des portes vers le public adulte, vers le public des parents des yéyés.
Retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde. Retiens la nuit pour nos cœurs dans sa course vagabonde. Serre-moi fort contre ton corps. Il faut qu'à l'heure des folies, le grand amour raye le jour et ne fasse oublier la vie.
Charles Aznavour, vous exploitez surtout le côté sentimental de la chanson. C'est un lyrique.
Oui.
Un romantique.
Oui, un peu des deux. Je me mets dans l'ambiance. Je me mets dans la peau d'une personne qui serait amoureuse ou d'une personne qui serait jalouse. Je travaille énormément devant ma glace. J'ai besoin presque de me faire pleurer pour dire des choses tristes. Il y a le côté un peu guignol de la chose. Je suis une sorte de clown qui va de glace en glace. D'ailleurs, j'ai énormément de glace. Et je me promène dans ma pièce, chez moi, en regardant dans les glaces. Je regarde les attitudes, mes attitudes. Et puis quand je me suis vraiment mis dans le bain, j'ai les larmes aux yeux. Là, j'ai l'impression que la chanson est faite. Et puis alors, je dispose des feuilles de papier un peu partout dans la pièce, sur le piano, sur la table, sur une chaise, pour ne pas avoir à revenir vers une table, pour ne pas faire un mouvement inutile. Parce que c'est sur le moment que je dois écrire. Si je n'écris pas ma phrase, sur le moment, je l'ai oublié deux secondes après.
Il regarde son corps pour voir si la chanson passe. C'est intéressant. Hein,
c'est intéressant. C'est vraiment un très très grand interprète. Et c'est vrai qu'Aznavour, quand on lui parle de son métier d'homme de scène, très souvent il revient à la danse. Il revient aux leçons qu'il a prises.
Au petit garçon.
Au petit garçon, des leçons de danse russe pour la virtuosité. Et puis pour les déboucher, parce que comme ça, il peut danser dans les cabarets russes, mais aussi de danse classique. Et il dira que jusqu'à la fin, certains gestes, par exemple la manière qu'il a de tendre la main en chantant, ça, c'est un geste de danseur classique. Et si on regarde, effectivement, il y a une espèce d'arrondi, de majesté dans le fait de tendre la main en chantant.
C'est vrai qu'il ne se disperse pas quand il chante devant un public.
Il ne se disperse pas, il maîtrise tout. C'est-à-dire qu'il a décidé une bonne fois pour toutes qu'il n'y aurait pas de rappel, donc il n'y a pas de rappel. Ça devient même une espèce d'argument pendant le spectacle en disant il n'y aura pas de rappel. Et puis, il est extrêmement attentif à son entrée en scène, par exemple. Ces dernières années, ces dernières décennies, il y avait quelque chose qui surprenait quand on voyait Aznavour pour la première fois sur scène. On se disait, oulala, c'est un mauvais jour, parce qu'il montait sur scène en bougonnant. On le voyait même parler. Pendant quelques pas, il sortait de la coulisse. On le voyait, il parlait, il avait l'air furieux, il n'avait pas l'air content. Et puis soudain, il s'éclairait, il arrivait devant le micro, il chantait. C'était juste une entrée en scène qu'il avait choisie, qu'il avait travaillée, qu'il avait modelée avec le temps, d'arriver en râlant. Et il tenait à cette image-là parce que ça donnait immédiatement un contraste à la première chanson.
On va encore écouter du Aznavour, mais chanté par un autre. Et cet autre, c'est Gainsbourg. Parce que, écrite en 54, il y a une très belle version que vous connaissez, Bertrand Ducal, forcément, de Gainsbourg, qui chante cette chanson comme si elle était de lui, d'ailleurs.
C'est dans une émission de télé, si je me souviens bien, et c'est quelque chose qui est très très rare, parce que Gainsbourg a très très peu repris les autres, très peu accepté, et il y a quelque chose d'extrêmement naturel dans le fait qu'il chante Aznavour, et il le chante de manière presque désgainsbourgisé. C'est-à-dire qu'on n'entend presque plus le parler, le phrasé, qui est déjà si singulier au début des années 60 de Serge Gainsbourg. On sent vraiment que là, il se fait plaisir et qu'il ne peut pas s'empêcher de rendre cet hommage au phrasé, à la diction, au timbre même de Charles Aznavour.
Parce que t'as les yeux bleus, que tes cheveux s'amusent à défier le soleil par leur éclat de feu. Parce que tu as 20 ans, que tu croques à la vie comme un fruit vermeil que l'on cueille en riant. Tu te crois tout permis et n'en fais qu'à ta tête. Désolé un instant, prêt à recommencer. Tu joues avec mon cœur comme une enfant gâtée qui réclame un joujou pour le réduire en miettes. Parce que j'ai trop d'amour, tu viens voler mes nuits du fond de mon sommeil et fais pleurer mes jours. Parce que je n'ai que toi, mon cœur est mon seul maître, et maître de mon cœur, l'amour nous fait la loi. Parce que tu vis en moi et que rien ne remplace les instants de bonheur que je prends dans tes bras. Je ne me soucierai ni de Dieu ni des hommes. Je suis prêt à mourir si tu mourrais un jour. Car la mort n'est qu'un jeu comparé à l'amour. Et la vie n'est plus rien sans l'amour qu'elle nous donne. Parce que je suis au seuil d'un amour éternel, je voudrais que mon cœur ne porte pas le deuil. Parce que
On a évoqué tout à l'heure Bertrand Dical, 1963, le Carnegie Hall à New York. Aznavour, l'international, on a l'impression que cela bat de soi, mais il part très vite en tournée dès qu'il est jeune. D'ailleurs, avec Roche, ils vont faire une tournée tout jeune en duo au Canada qui va très bien marcher. Roche va rester là-bas, épouser une Canadienne, Aznavour revenir en France. Ça semble évident de parcourir le monde quand on est Charles Aznavour.
Ça semble évident parce que en France, ça marche pas très bien. Et c'est Piaf qui leur dit, comme ça, sans trop y penser, ah ben, rejoignez-moi à New York. Et puis quand ils arrivent à New York, c'est quand même une catastrophe parce qu'ils sont pas du tout attendus, ils ont pas de visa, ils commencent par passer 3 jours en prison, Piaf les engueule. Et puis elle les pistonne pour un vague truc à Montréal. Et là, ils deviennent des stars. Ils vont rester un an et demi où ils sont effectivement des stars. C'est-à-dire que tous les soirs, où qu'ils chantent, où qu'ils soient, c'est plein. Et donc, c'est tout qui suit. L'argent, les filles, la presse, la célébrité, etc. Sauf que Aznavour est français, veut revenir en France, mais Aznavour, il a découvert que ça marche pas en France, mais qu'au Québec, ça marche très bien. Que Piaf, elle est une star aux États-Unis. Donc, dès le départ, il va penser à partir à l'étranger. Donc, très très vite, dès 53-54, il va commencer à faire traduire des chansons en anglais. Il en écrira même une, hein, qu'on a la gentillesse d'oublier. Et Aznavour va travailler. C'est-à-dire que ce qu'il a fait pour la France, il va le faire de manière ramassée pour un pays étranger.
Pour ouvrir une carrière internationale, il faut accepter de marcher dans les rues inconnues en étant inconnu. What's your name? Aznavour? Aznavour? How did you write that? Et vous lui dites A-Z-N-A-V-O-U-R. Et ça, je l'ai fait pendant... J'étais quand même grande vedette quand j'ai quitté la France pour faire l'étranger. Il y a 15 ans, j'ai accepté d'être, si vous voulez, artistiquement humilié. Pas humilié, parce qu'il n'y a aucune raison d'être humilié. Mais artistiquement, de dire comment je ne suis pas connu ici. Je l'ai accepté. Marcher dans la rue, aller dans les hôtels, demander une chambre qu'on me la refuse parce qu'on ne me connaît pas, aller dans les restaurants, avoir la plus mauvaise table, le plus mauvais coin. Je l'ai accepté. Puis finalement, c'est ça l'esprit international. C'est d'accepter d'être personne ailleurs que dans son propre pays.
Et pourquoi on l'accepte ?
On l'accepte parce qu'on aime son métier, je crois. On l'accepte parce qu'on a envie de s'étendre, de devenir plus connu. On l'accepte pour être le 10e dans le monde plutôt que d'être le premier chez soi.
Il est honnête là, hein, Aznavour.
Il est parfaitement honnête et quand il parle d'être inconnu, Aznavour a fait des choses qu'il a été le seul à faire. Par exemple, aux États-Unis, on parle de Carnegie Hall, 1963, gros prestige, mais à la même époque, il fait une tournée aux États-Unis. Une tournée qui lui rapporte à peu près rien, qui lui coûte peut-être même un peu d'argent, puisque c'est une tournée des universités. Et il va chanter dans les salles de spectacle des universités, là où la place coûte 2 ou 3 ou 5 dollars. Donc, c'est pas des excellents cachets, mais il dit, quand ces étudiants seront médecins, quand ils seront avocats, quand ils seront chefs d'entreprise, ils viendront voir Aznavour à Broadway. Et c'est ce qui s'est passé. Il a créé son public aux États-Unis en allant chanter dans les universités.
Un public qui, en France et à l'étranger, entend un chanteur qui parle de nos problèmes, de notre psychologie, de nos amours difficiles, des moments où on est un peu raté, où on se sent en tout cas un peu raté. On a dit qu'il a eu des chansons sulfureuses. Alors on pense à « Tu te laisses aller », on pense à « Comme ils disent » sur l'homosexualité, « À mourir d'aimer ». J'ai pas l'impression que l'adjectif soit très juste, sulfureux. C'est plus l'envie et le courage de lever des tabous.
De lever des tabous et puis de dire le monde tel qu'il est. C'est-à-dire que Aznavour s'est beaucoup exprimé, par exemple, sur Comme ils disent, en disant oui, effectivement, il y avait quelque chose qui me paraissait injuste, mais quelque chose d'injuste et d'absurde. C'est-à-dire, pourquoi regarde-t-on les homosexuels comme ça? Après tout, c'est des gens comme vous, comme moi, comme n'importe qui, et c'est la nature qui fait que, voilà. Et il a envie que ses chansons ressemblent au monde et que le monde soit dans ses chansons, qu'il y ait quelque chose de l'ordre de notre vie partagée. Et c'est ça aussi qui est intéressant chez Aznavour, c'est-à-dire qu'il ne se rêve pas en dehors du monde. Il n'est pas dans un univers intemporel comme Georges Brassens, qui n'est pas en train de chanter les soucis du pot-au-feu et du robinet qui fuit. Il est le miroir de ses auditeurs, le miroir de lui-même aussi, et le miroir des gens qui viennent, c'est-à-dire qu'il chante la vraie vie, il raconte ce qu'il désire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas besoin de mettre des femmes extrêmement belles, ni des surhommes hyper sexués. Non, non, il raconte la sexualité telle qu'elle est pour tout le monde.
Puisque d'autres mains sur ton corps impudique sont venus prendre place, où mes doigts ont couru et service qu'un autre cœur. Donne au tien la réplique et que tes joies se fondent aux joies d'un inconnu. Je veux te dire adieu. Puisque tes reins se cambrent aux nouvelles étreintes et que ta peau frémit sous un souffle nouveau, puisqu'un autre que moi peut arracher tes plaintes, faisant jaillir de toi des râles et des mots. Puisque sur sa couche tu nies mon existence, en oubliant mon nom pour mieux crier le sien, et que tu meurs dans sa vie pour tisser ta jouissance en lui disant ces mots que je croyais les miens, blessés dans mon cœur même. Et parce que je t'aime, je veux te dire adieu.
Là, on entendait le trio sacré du jazz, Bertrand Dical, une basse, un piano, une batterie, mais de plus en plus, avec de sacrés arrangeurs, Aznavour est allé vers quelque chose d'assez hollywoodien quand il écrit une chanson. Il accepte des violons, presque parfois à outrance. Ça fait partie de la manière de présenter et de se présenter au public.
Il y a ça, et il y a aussi un souci, et on revient à sa jeunesse, il y a le souci de la danse. Et il sait très bien que quand on danse, on n'écoute pas forcément les paroles, mais que quand on danse, on se fait baigner par le son. Donc avec un accordéon musette, on va toucher un certain public, avec des violons hollywoodiens, on va toucher un autre public, et avec des guitares électriques, on va toucher encore un autre public. Et c'est pour ça que les noces de Charles Aznavour et Paul Mauriat, qui à l'époque est un... Quand ils commencent à travailler ensemble en 1960, quand Aznavour rentre chez Barclay, c'est un tout jeune homme, hein, il a 22 ou 23 ans, mais c'est un surdoué de l'arrangement.
Il va faire La Mama, entre autres.
Oui, il va faire La Mama, entre autres, et puis il va faire Je me voyais déjà, il va faire Toutes les salées, il va faire un nombre incroyable de grands classiques de Charles Aznavour. Il est à la fois capable de mettre une guitare électrique complètement jerk, de mettre des percussions complètement mambo, de faire un arrangement à la Frank Sinatra, comme ça.
Ou du violon de Zigane.
Du violon de Zigane, d'être dans tous les genres, et de, non pas de ramener tous les genres vers une espèce de middle of the road, non, de faire absolument du rock, de faire absolument du mambo, de faire absolument du jazz hollywoodien, d'être au sommet même de chacun des genres. Et ça, Aznavour va énormément en profiter à l'époque où les Français dansent encore sur de la variété.
Et puis dans la vie d'Aznavour chanteur, il y a aussi Georges Garbarens.
Il y a Garbarens.
Le beau-frère.
Garbarens, lui, il est compositeur, et Aznavour lui dit « J'attendrai. Viens, fais-toi un nom, fais-toi une carrière, et après on va travailler ensemble. » Et ce qui est très étonnant, c'est que leur première collaboration en 1960 est autour d'une chanson dont les paroles sont de Garbarens et la musique de Charles Aznavour. Et ensuite, Garbarens va devenir un immense compositeur pour Charles Aznavour. « Emmenez-moi ». Par exemple, c'est de Georges Garbarens. Il va épouser Aïda Aznavour, la sœur aînée de Charles Aznavour, et il va devenir un peu son double. Garbarens, c'est aussi un immense compositeur dans notre mémoire pour d'autres chansons que les chansons d'Aznavour. Daniela, par exemple, des Chaussettes Noires, c'est Georges Garbarens qui est effectivement un homme qui a accepté de passer derrière Charles Aznavour. Mais c'est un des plus grands compositeurs de la deuxième moitié du XXe siècle en France.
La mort d'Aznavour a ému les Français, et pas seulement les Français, elle a ému notamment aussi les jeunes musiciens. On a pu entendre sur les réseaux sociaux Camélia Jordana entonner une chanson a cappella d'Aznavour. Et puis la semaine dernière, nous recevions le metteur en scène Thomas Joly dans le Grand Atelier, et une de ses invitées, Raphaël Nanader, chanteuse connue aussi sous le nom de Elle, nous a dit « Ah, la semaine prochaine, vous allez parler d'Aznavour, est-ce que je peux chanter une petite chanson ?»
Si je t'ai blessé, si j'ai noirci ton passé, viens pleurer au creux de mon épaule. Viens tout contre moi, et si je fus maladroit, je t'en prie, chérie, pardonne-moi. Laisse ta pudeur du plus profond de ton cœur, viens pleurer au creux de mon épaule. Car si tu partais, si mon bonheur se brisait, mon amour, c'est moi qui pleurerais.
Un beau cadeau, hein, de Raphaël Nanader.
C'est un beau cadeau, et là c'est Aznavour qui pleure parce que c'est un de ses tout premiers succès comme interprète. Viens pleurer au creux de mon épaule, c'est une des premières chansons d'Aznavour, chantée par Aznavour, qui passe à la radio, c'est en 56. Et c'est absolument saisissant que ce soit cette chanson-là que choisisse une jeune chanteuse pour évoquer Aznavour.
J'ai une phrase à vous livrer, je la trouve très belle, elle est signée de Cocteau, il a pas mal écrit sur Charles Aznavour. Il a dit « Le véritable succès de Charles vient de ce qu'il chante davantage avec son cœur qu'avec sa gorge. » Est-ce que vous partagez l'avis de Monsieur Cocteau, Bertrand Dical ?
Absolument. Absolument. Jean Cocteau connaissait très bien la musique populaire. C'était un ami d'Édith Piaf, un vrai ami. Et quand il le dit, il dit vraiment ce qu'est la révolution d'Aznavour. Jusque-là, les chanteurs, ils font souvent une performance sportive, que ce soit Gilbert Bécaud, avec sa manière de transformer le jazz en chanson française et en succès pour teenagers français, que ce soit Luis Mariano, avec ses exploits de ténor pour le peuple entier et pas uniquement pour les opéras. Voilà, Aznavour, il chante le cœur, il chante la vie, il chante ce que nous sommes. Il se soucie pas d'être un performeur. C'est précisément parce qu'il chante avec le cœur que c'est un exceptionnel interprète, pas parce qu'il s'est soucié de la note jolie et de la pureté de la voix.
Merci Bertrand Dical d'avoir passé ces deux heures avec Aznavour et avec nous à France Inter dans le Grand Atelier. Je rappelle le titre de votre biographie, Tout Aznavour, on la trouve toujours, hein ?
Ah oui, bien sûr.
Elle a été écrite quand ?
Elle est parue fin 2017.
La postérité. Et soyez pas trop modeste quand même.
Mais je ne suis pas modeste parce que je sais qu'il y a une autre postérité qui arrive. Que de mon vivant, j'ai des statues, des avenues. C'est quand même la postérité. Hein, dans un pays où je ne suis pas né, où mes parents n'étaient pas nés. Mais voilà, c'est ça pour moi la postérité. La postérité, c'est les peintres et les sculpteurs. Pour moi. Mais les chanteurs, ils disparaissent.